Je suis dégoûté de la politique. La phrase n'est pas de moi, mais d'Héloïse Favennec dans la presse ce matin. Elle n'a plus le droit d'être l'assistante parlementaire de son mari, député UDI constructif de la Mayenne. Elle ne dit pas merci, elle, à la nouvelle loi de moralisation de la vie politique qui vient d'être adoptée en première lecture. Alors, qu'est-ce qui va changer? Est-ce une nouvelle ère qui commence? Allons-nous nous réconcilier avec nos élus, convaincus, déçus, sceptiques? Posez vos questions par mail sur franceinter.fr, réagissez sur les réseaux sociaux avec le mot dièse Telson et appelez-nous au 01 45 24 7000.
Noé Da Silva, le téléphone sonne.
Et la première question, c'est avec Alain. Pour vous, Alain, cette loi ne va pas assez loin. Bonsoir.
Oui, bonsoir. Merci de prendre mon appel. Non, effectivement, la loi ne va pas assez loin. Parce que les députés forment une caste et ils sont très hargneux lorsqu'on s'attaque à leurs privilèges. Et il y en a un qui me paraît tout à fait scandaleux, inacceptable, c'est l'immunité parlementaire. À partir du moment où un député commet une faute, il est protégé par son mandat de député. Je trouve ça absolument aberrant. Et ils sont élus du peuple, donc ils devraient être soumis et donner l'exemple, et soumis aux mêmes lois que le peuple, sans qu'il y ait de sens péjoratif dans le mot peuple. Mmh. Et ensuite, autre chose qui m'a amusé, que j'ai entendu sur France Info ou sur France Inter, c'est que bon, je savais que les députés avaient la gratuité de la SNCF pendant leur mandat, mais ça se prolonge après, en plus. Alors ça m'a fait rire, et en même temps, ça m'a aussi un peu scandalisé, parce que ça revient cher. À partir du moment où on n'a plus une fonction, on n'a plus à avoir des privilèges de cette fonction, et ils n'étaient pas du tout d'accord pour qu'on leur supprime ça. Je suppose qu'ils doivent avoir les moyens de se payer un voyage en train.
Alors Alain, pour vous répondre autour de la table du téléphone sonne, Aurore Berger, députée de La République En Marche, élue des Yvelines. Bonsoir.
Bonsoir.
Bastien Lachaud, député de La France Insoumise, élu de Seine-Saint-Denis. Bonsoir. Et René Dosière, ancien député PS, soutien d'Emmanuel Macron. Bonsoir. Merci
Bonsoir.
D'être avec nous. Première question peut-être pour vous. Alors Aurore Berger, vous avez voté cette loi de moralisation de la vie politique. Elle ne va pas assez loin, nous dit Alain.
Alors je comprends un certain nombre d'éléments qui ont été avancés par Alain. Moi d'ailleurs, quand je me suis exprimée à l'Assemblée, j'avais dit qu'il fallait finalement qu'on aille au bout de l'abolition des privilèges, en tout cas de ce qui était considéré comme étant encore des privilèges ou ressenti comme des privilèges pour les parlementaires. Je pense néanmoins que cette loi, elle permet enfin à la fois de donner un cadre à un certain nombre de choses qui n'étaient pas encadrées jusqu'alors. Par exemple, les frais de mandat des parlementaires qui ne doivent pas être un complément de revenu, mais qui doivent être un levier pour exercer normalement son mandat, par exemple louer une permanence parlementaire, et puis en finir avec des choses qui étaient, elles, anormales, comme la question des emplois familiaux, par exemple, la question de la réserve parlementaire qui était attribuée de manière discrétionnaire par les députés et les sénateurs. Donc, je pense qu'on peut aller encore plus loin.
Sur l'immunité
il y aura aussi un projet de loi à valeur constitutionnelle qui va, par exemple, encadrer la question du cumul des mandats. On ne pourra plus, et c'est bien faire plus de 3 mandats successifs, et ça, ce sera introduit parce que c'est une réforme qui est une réforme constitutionnelle, donc ce sera introduit dans un nouveau projet de loi. Donc voilà, il y a des choses qui vont aller encore plus loin, mais on pose un cadre là où souvent il n'y en avait pas, et on encadre et on met fin à des choses qui étaient ressenties, et je pense à raison, comme des privilèges.
Alors René Dosière, vous êtes ancien député socialiste, que répondez-vous à Alain, déjà quand il dit il y a une gratuité après le mandat? Est-ce que c'est votre cas, par exemple? Notamment pour la SNCF.
Ah ben, je ne sais pas, je suis ancien parlementaire seulement depuis un mois, mais il est vrai que les parlementaires qui ont siégé pendant plus de 18 ans, ce qui est mon cas, et ce qui représente d'ailleurs une proportion relativement faible, enfin des parlementaires bénéficiaient de, paraît-il, de la gratuité du transport SNCF. Mais enfin, c'est un aspect, si vous voulez, un peu anecdotique sur lequel on peut naturellement revenir. Je crois qu'il faut quand même bien voir que votre interlocuteur est tout à fait dans le style de l'attaque antiparlementaire. Mmh. Et là, on voit bien qu'avec ce texte, ce texte qui est le 8e texte qui porte sur cet objectif de réconcilier les Français avec la vie politique et l'argent, complète naturellement les textes précédents, là où il y avait un certain nombre d'insuffisances.
Bon sens.
Oui, tout à fait, ça va dans le bon sens. ça n'est pas suffisant. Il faudra un neuvième texte, peut-être ensuite un dixième, cela dépendra, mais en tout cas, il y a un certain nombre de progrès. Il est vrai que sa visibilité, je dirais politique, est peut-être un peu affaiblie par le fait que certaines dispositions que la population attendait et qui avaient été réclamées, comme par exemple le casier judiciaire vierge, ne figurent pas. De même que le fait que les partis politiques peuvent se créer pour bénéficier d'un financement à l'occasion des élections législatives, ça ne figure pas non plus. Mais enfin, il y a beaucoup de dispositions, et je pense que tous les parlementaires et le gouvernement qui expliqueront le détail de ce texte feront apparaître qu'il est beaucoup plus riche qu'il ne paraît au premier abord.
Alors on va sans doute revenir d'ici 20h sur ce qui change, ce qui ne change pas. Bastien Lachaud, la France Insoumise, jeune député, c'est votre premier mandat. Vous êtes abstenu. Pourquoi ?
Parce que nous étions entrés dans ce débat plein d'allant avec la volonté de faire une vraie loi de vertu républicaine pour s'assurer que les choses se passent comme elles devraient se passer et donc qu'il ne fallait pas uniquement chasser les corrompus, parce qu'il y a des corrompus dans la classe politique évidemment, mais pas plus que dans n'importe quelle autre profession, mais qu'au contraire il fallait aller à la recherche des corrupteurs, et de cela il n'en a pas été question dans ce texte. Ben, c'est-à-dire que aujourd'hui, ce qui corrompt la société, c'est l'argent roi, c'est ce qui est la valeur suprême de notre société. Tout est mesuré à l'aune de qui possède de l'argent ou qui n'en possède pas. Et donc, évidemment, les tentations sont nombreuses. Et de tout cela, il a été impossible d'aborder ces sujets dans le débat. La majorité et le gouvernement ont refusé systématiquement tout élargissement du cadre de la loi. Et donc, au final, on se retrouve avec une loi qui, au début, s'appelait loi de confiance dans la vie publique et qui, au final, a dû s'appeler loi de confiance dans la vie politique parce que...
qui ne s'applique qu'aux élus.
Exactement. Et elle a contribué renforcer la stigmatisation des élus. Et donc, au contraire de rendre de la confiance, elle n'a fait que susciter plus de méfiance vis-à-vis des élus.
On surfe sur une vague de défiance. Vous avez parlé d'argent et Aurore Berger, vous avez évoqué la réserve parlementaire. Je crois que vous avez fait réagir Bernard. Bonsoir.
Oui, bonsoir.
Bienvenue sur France Inter.
Je vous remercie de prendre mon appel. Effectivement, j'entendais beaucoup la radio, je pense d'ailleurs une antenne de Radio France, peut-être France Culture, qui évoquait que la réserve parlementaire serait supprimée en 2024. Alors, je ne suis pas sûr de l'information. Et je voudrais savoir aussi...
Ça ne devait pas être une antenne de Radio France, alors que vous avez écouté. Mais on va vous répondre, bien évidemment. Ouais, Aurore Berger, qui a voté cette loi pour La République En Marche, peut vous répondre d'ores et déjà. Je vous redonne la parole tout de suite, Bernard.
Oui, merci. Sur la suppression de la réserve parlementaire, elle est évidemment clairement supprimée pour l'avenir. Après, il y avait un certain nombre de subventions qui ont été accordées et qui sont échelonnées dans le temps. Donc les subventions préalablement accordées, évidemment, il y a un engagement qui est fait de la part de l'État, donc on ne va pas les arrêter. Donc pour les subventions qui étaient déjà accordées, elles peuvent aller jusqu'en 2024. Mais plus, on ne pourra plus demain continuer à avoir une réserve parlementaire.
C'est une bonne chose, ça, René Dosière, vous qui avez été député ?
Oui, c'est une très bonne chose.
C'est la fin du clientélisme ?
Oh, ça n'était pas du clientélisme, mais je veux dire que c'est vrai que c'était une distribution discrétionnaire d'argent public un peu tous azimuts, du saupoudrage. Et je crois que là, on a bien vu durant les débats la différence entre les nouveaux parlementaires qui, au fond, refusaient ce type de pratique et puis les anciens parlementaires, notamment au Sénat, qui étaient évidemment très attachés, qui montraient tous les avantages. Bon, c'est vrai qu'il y avait un certain nombre d'avantages, ceci dit, l'opinion publique attendait cette disposition. Et là, on voit bien que la majorité était beaucoup plus proche de l'opinion publique que l'opposition.
Et l'opinion publique attendait autre chose. Je crois que c'est la deuxième partie de votre question, Bernard.
Oui, c'est par rapport aux emplois familiaux. J'ai entendu qu'il y avait une pratique courante au sein des assemblées. Par exemple, dans une même famille politique, quand deux parlementaires se connaissent bien, sont des collègues et amis, ils peuvent convenir, comme ils ne peuvent pas employer des membres de leur famille proches, ils peuvent convenir que le collègue emploiera dans son équipe des membres de la famille de son autre collègue et inversement. Bref, un bon échange de procédés, mais qui détourne totalement cette disposition par rapport aux emplois familiaux.
Votre question, c'est est-ce que ce sera toujours possible ou est-ce que c'est déjà existant ?
Alors, il est à craindre que cette astuce qui permet de contourner les nouvelles dispositions va se pérenniser, ou plutôt va même s'affirmer si les contraintes dans les textes existent. C'est-à-dire, j'emploie ton fils ou j'emploie ton épouse dans mon équipe, et toi, de ton côté, sois gentil, utilise ma jeune fille dans ton équipe. Et donc, je crains que cette pratique dont on parle sous les manteaux risque d'intervenir encore plus, de façon plus étonnante, et ça risque de rendre une disposition encore de ce texte comme une coquille vide.
Les invités du téléphone sonne vont vous répondre, Bernard, avec Bastien Lachaud, jeune député de la France Insoumise. Est-ce que c'est des pratiques que vous allez mettre en place ?
Non, ce n'est pas des pratiques que nous allons mettre en place, parce que nous ne pratiquions pas le travail familial. Avant de revenir sur le deuxième partie de la question de Bernard, sur la réserve parlementaire. Donc nous, dans notre programme, nous étions pour la suppression de cette réserve. Donc nous nous satisfaisons pleinement de cette avancée de la suppression de la réserve parlementaire. Nous avons réussi à élargir et à obtenir de l'Assemblée, ce qui n'était pas l'avis du gouvernement à l'origine, de supprimer également les réserves ministérielles, parce que ça existait
aussi. C'est un amendement de la majorité qui l'a permis.
Oui, suite à plusieurs amendements de l'opposition en commission des lois. Donc, n'inversons pas non plus les rôles. Mais au final, tout le monde s'est retrouvé là-dessus. La seule chose, c'est qu'au dernier moment, la majorité a quand même souhaité, d'une certaine manière, restaurer cette réserve en basculant le budget de la réserve parlementaire sur une pseudo-réserve ministérielle. Heureusement, nous avons réussi à stopper cela, mais c'était assez inquiétant. Mais au final, on a supprimé la réserve parlementaire, la réserve ministérielle, et nous nous en portons tous mieux. Sur la question des emplois familiaux, la loi interdit les emplois familiaux directs. Il aurait fallu aller plus loin, par exemple, pourquoi pas aussi les interdire dans les groupes parlementaires, ce qui n'a pas été le cas. Mais le vrai problème, c'est les emplois fictifs, qui sont largement plus scandaleux que les emplois familiaux. Et de cela,
est-ce que cette loi va changer la chose ? C'est la question notamment de Jean-Luc Parmel qui dit, pour les assistants, la vraie question est la définition précise de leur emploi.
Non, parce que pour l'instant, il n'y a toujours pas de vrai statut du collaborateur, de la même manière qu'il n'y a pas de vrai statut de l'élu. Et c'est vrai, c'est deux éléments sur lesquels il faudrait avancer, et il a été impossible d'avancer sur ces éléments-là dans la loi.
Pour Berger, La République En Marche, est-ce qu'il va y avoir un véritable statut pour éviter ce genre de choses ?
Alors, il y a déjà une réforme qui est en cours, au sein de l'Assemblée nationale notamment, sur le statut des collaborateurs parlementaires notamment. C'est aujourd'hui un emploi qui est extrêmement précaire, parce qu'il n'y a pas de grille de salaire. Quand il y a un contrat de travail qui est rompu, c'est extrêmement facile en fait, de le rompre. Il suffit qu'une rupture de confiance intervienne pour que vous puissiez licencier votre collaborateur parlementaire. Donc, il faut renforcer clairement les droits des collaborateurs parlementaires. Et la difficulté, c'est que les différentes affaires ont fait qu'on a parlé d'eux que quand il y avait en fait un travail qui était fictif. Pour embaucher moi-même des collaborateurs parlementaires, je peux vous garantir que c'est pas un travail fictif qui est exercé par eux et que ça mériterait en effet d'être encadré, parce que vous retrouvez que des situations qui sont assez incroyables, avec des écarts de salaire énormes entre les différents collaborateurs parlementaires. Et je pense que d'ailleurs, si on va un peu plus loin sur le statut, notamment de l'élu, et les moyens qui sont attribués, c'est-à-dire si dans la réforme, par exemple, constitutionnelle, on dit qu'on aura moins de parlementaires, mais avec plus de moyens, pour moi, ne veut pas dire avoir de meilleurs revenus pour les parlementaires, mais par exemple, avoir plus de moyens pour embaucher des gens de qualité et permettre de mieux les rémunérer dans le temps.
Ça vous fait sourire, René Dosière ?
Non, pas du tout, non. Je crois que... Non, mais Aurore Berger a raison. C'est-à-dire que ce texte permet quelques progrès, je dirais, concernant les collaborateurs parlementaires, et des progrès immédiats, c'est-à-dire en ce qui concerne le licenciement, les procédures de licenciement. Mais ensuite, il définit, les directions que le bureau de chaque assemblée devra accomplir, parce que c'est une compétence des bureaux d'assemblée et pas du bureau de la loi, que de déterminer le statut des parlementaires. Aujourd'hui, on a la possibilité de le faire. Il y a une association des députés employeurs. Il faut d'ailleurs que les députés y adhèrent. Donc, on peut maintenant négocier un statut, ce qui, auparavant, n'était
pas
possible.
Pour vous, c'est en bonne voie.
L'Assemblée n'est pas l'employeur.
Bastien Lachaud, et après, Fabien nous attend au téléphone.
En tout cas, sur le statut des assistants, clairement, vous avez refusé de leur accorder le licenciement économique en cas, à la fin du mandat du député. Et donc, de bénéficier des protections dues aux salariés qui sont victimes d'un licenciement économique. Et là, c'était un amendement qui permettait d'avancer directement et sans remettre à plus tard, parce que ça a aussi été un des leitmotifs du gouvernement et de la majorité. Ce n'est pas cette loi qui va gérer le problème, il faudra voir plus tard. Et au final,
C'est déjà en cours. Ce qui est important, c'est qu'on ne peut pas juste prendre la question des collaborateurs parlementaires par l'un des aspects. On ne peut pas juste dire on va faire la grille de salaire d'abord, on va faire la question du licenciement d'abord. Il faut à un moment qu'il y ait un vrai statut qui existe. Et une fois que ce statut existe, pouvoir en effet y travailler sur l'ensemble des pans, comme pour tout salarié. Et
je pense Alors pourquoi on ne l'a pas fait dans cette loi?
Mais parce que ça n'est pas du domaine de la loi, tout simplement.
Donc pourquoi parler du statut des collaborateurs?
Donc vous savez bien que ça n'est pas du domaine de la loi. C'est du domaine, tout simplement, c'est renvoyé au bureau et de l'Assemblée nationale et du Sénat.
Comme beaucoup de choses dans cette loi.
Non, pas beaucoup de choses dans cette loi. Et en effet,
Comme l'IRFM, par exemple.
Je pense que c'est un sujet essentiel et je pense qu'on peut tous, en effet, se mettre d'accord entre les députés employeurs, puisqu'en effet, c'est nous qui sommes les employeurs et pas l'Assemblée nationale, pas le Sénat, de manière à pouvoir travailler ensemble à l'amélioration du statut.
Fabien est au téléphone avec nous. Bonsoir Fabien, quelle est votre question?
Bonsoir. Alors merci à vos techniciens et standardistes pour commencer. Alors, la loi, je trouve qu'elle va dans le bon sens, mais déjà, ça me fait bizarre qu'il faille une loi pour que nos politiques aient besoin de savoir ce qui est moral ou pas. Mais bon, c'est une petite réflexion au passage. Ensuite, je m'étonne que pour de nombreux métiers, entre guillemets, normaux, il faut un casier judiciaire vierge, alors qu'apparemment, pour nos représentants qui nous représentent, nous, le peuple, et pour écrire les lois, ça va trop loin, et donc ils ne l'ont pas mis dans cette loi-là. Je trouve ça un peu bizarre.
Donc vous, ça vous choque, et c'était une promesse d'Emmanuel Macron pendant sa campagne. René Dosière, ancien député PS, vous répond.
Oui, là, c'est effectivement une faiblesse du texte. Ceci dit, la question est complexe car là, on voit bien que le gouvernement a craint que cette disposition ne soit annulée par le Conseil constitutionnel parce que le Conseil constitutionnel est très sourcilleux de laisser l'éligibilité à tous les Français.
Est-ce que c'était grave que ce soit déclaré anticonstitutionnel? Au moins, il y aurait eu ce geste de fait, peut-être.
Ceci dit, c'est quand même une des caractéristiques. C'est qu'une des faiblesses, semble-t-il, de ce texte, c'est-à-dire qu'on a souvent privilégié le juridique au profit du politique. Et c'est d'ailleurs sans doute le fait que la garde des Sceaux était plus juriste que politique, contrairement, je dirais, à son prédécesseur, qui aurait peut-être un peu fait bouger les choses là-dessus. Alors, le gouvernement n'a pas souhaité prendre ce risque. Du coup, on a un affichage qui est un peu plus difficile. Ceci dit, le gouvernement a prévu une autre procédure, dont je ne suis pas sûr d'ailleurs qu'elle soit entièrement non plus constitutionnelle. Donc là, on verra. Les choses sont un peu compliquées. Mais voilà, c'est en tout cas, l'Assemblée précédente, enfin la commission des lois de l'Assemblée précédente, avait voté à l'unanimité cette disposition. Moi, personnellement, dans ma proposition de loi que j'avais faite au mois de mai, j'avais repris d'ailleurs ce texte, pas très compliqué puisqu'il avait été voté. Je pense qu'on aurait pu prendre le risque, on aurait rendu la loi plus lisible auprès de l'opinion et je ne suis pas sûr que le Conseil constitutionnel n'aurait pas évolué sur ce point.
Aurore Berger, La République En Marche.
En effet, on n'a pas pris le risque parce que on sait déjà, les Républicains notamment, ont dit qu'ils allaient porter ce projet de loi devant le Conseil constitutionnel, espérant qu'un certain nombre de dispositions soient dès lors annulées. Et si la disposition du casier judiciaire vierge avait été annulée, je ne suis pas certaine que l'effet sur l'opinion aurait été extrêmement positif. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a choisi un mécanisme qui est peut-être un petit peu plus difficile à expliquer, mais l'idée, c'est quoi? C'est que l'objectif soit atteint. Et l'objectif, c'était tout simplement que celles et ceux qui manquent à la probité ne puissent pas demain être candidats. C'est le cas ici. C'est-à-dire que tous ceux qui manquent à la probité,
que ce soit aussi
sur les questions de discrimination, que ce soit sur les questions d'incitation à la haine, sur les questions d'homophobie, sur les questions de racisme, sur les questions de sexisme.
S'il y a une peine d'inéligibilité qui est prononcée.
Non, il y a une peine complémentaire obligatoire d'inéligibilité. C'est-à-dire que celles et ceux qui seront rendus coupables de crimes, délits et des éléments que je viens de citer se verront infliger une peine obligatoire d'inéligibilité.
Bastien Lachaud, député de la France Insoumise, vous n'avez pas l'air d'accord.
Je n'ai pas la même lecture. Mais c'est ce que comprend
la
loi.
Non, ce n'est pas ce que comprend
peine
la loi.
Peine obligatoire d'inéligibilité, c'est exactement ce qui est écrit.
Le juge doit obligatoirement se prononcer sur une potentielle inéligibilité en fonction de la personnalité de la personne, en fonction de la personnalité de la personne. Vous imaginez ? Ça veut dire que plus on est puissant, moins on sera inéligible, c'est évident.
Et donc là, vous préjugez de des dispositions que prendront les juges.
Non, c'est ce qui est écrit dans le texte de loi, la personnalité.
Ça veut dire que cette loi est mal écrite ?
Non, mais en tout cas.
Absolument pas.
Non, si vous voulez.
Juste, la dernière chose quand même, c'est l'inconstitutionnalité. C'est une blague de nous dire que ça va être inconstitutionnel. Nous allons voter une loi constitutionnelle au mois d'octobre ou de novembre. Si il fallait attendre la loi constitutionnelle pour mettre l'inéligibilité dans la loi, alors à quoi sert cette loi ? Maintenant, pourquoi ne pas attendre la loi constitutionnelle ? On modifie la Constitution, on rend possible l'inéligibilité et on met l'inéligibilité dans la loi.
Aurore Berger, le mot de la fin sur ce thème.
Je veux juste répondre, tout simplement, pourquoi c'est inconstitutionnel potentiellement ? À cause de l'automaticité des peines. Et heureusement, dans notre pays, il n'est pas constitutionnel que les peines soient automatiques. Et je ne suis pas certaine que ni vous, ni nous ayons envie de faire une réforme constitutionnelle qui aille dans ce sens.
Donc le programme d'Emmanuel Macron était mauvais.
C'est absolument pas le cas. L'objectif
puisque c'était dans l'inéligibilité. L'objectif n'est absolument pas rempli. C'est totalement faux.
L'objectif est rempli. Celles et ceux qui ont manqué à la probité... Celles et ceux qui ont manqué à la probité ne pourront pas demain être candidats. C'était ça l'objectif, c'est ça qui est contenu dans la loi. Je regrette que vous soyez abstenus.
Le débat continue.
France Inter, Noé Da Silva, le téléphone sonne.
Merci d'être sur France Inter. Frédéric, vous avez une question.
Oui, bonsoir à tous, bonsoir à vos invités. Ma question est un petit peu en dehors du débat de ce soir, si j'ai bien compris, parce qu'il s'agit du cumul des mandats. Alors, ce qui est prévu me paraît excessivement timide, avec pas plus de trois mandats. Trois mandats, ben, ça fait déjà une carrière et donc un pouvoir, et ça enlève un petit peu à la démocratie parlementaire pour faire les lois. Par ailleurs, je n'ai pas entendu dire qu'il serait question de supprimer des cumuls, par exemple, entre un mandat exécutif, comme un maire, et un mandat non exécutif comme conseiller départemental ou conseiller régional. Or, le cumul de ces deux fonctions, par exemple, est évidemment totalement impossible à réaliser au plan pratique. Mmh. Et c'est une demande formelle des citoyens français. Donc, je voudrais savoir ce qu'il en est exactement. Si on peut aller plus loin sur, s'il est prévu d'aller plus loin sur cet élément ou pas.
Sur la moralisation de la vie politique et sur le cumul des mandats. René Dosière l'a dit en commençant cette émission. Il y a eu plusieurs lois et ça fait partie d'une ancienne loi qui est entrée en vigueur maintenant.
De 2014, qui interdit le cumul entre une fonction parlementaire, député ou sénateur, et un mandat exécutif local, c'est-à-dire maire ou adjoint, président ou vice-président. Voilà. Et donc là, c'est une grande nouveauté. Ça fait deux siècles qu'on l'attendait en France. Bon. Ceci dit, s'agissant du niveau local, il y a des règles de cumul qui ont été votées précédemment. On peut pas avoir plus de deux ou trois mandats. Mais, je veux dire, là, on peut effectivement continuer à avoir un cumul. Il n'y a pas le mandat unique au niveau local, et ça reste une disposition qu'on pourra éventuellement évoquer plus tard, et en faveur de laquelle moi je suis partisan. La disposition la plus efficace pour que les citoyens, enfin les élus représentatifs des citoyens, c'est naturellement le mandat unique au niveau local qui permet aux gens d'exercer une responsabilité élective tout en gardant leur profession à temps partiel. Et là, on est sûr qu'il n'y aura pas de coupure. Mais on n'en est pas là pour l'instant.
Bastien Lachaud, député de la France Insoumise, c'est votre premier mandat. En gros, la question tourne autour du métier de parlementaire. Est-ce que vous avez l'intention d'en faire votre métier ?
Bien sûr que non. Et votre auditeur a parfaitement raison. Trois mandats dans le temps, c'est trop long. Il ne faut pas excéder deux mandats, parce qu'un mandat pour apprendre, un mandat pour être au meilleur niveau. Et après, on passe la main. Et il a également raison sur le non-cumul absolu de tous les mandats. Donc ça, c'était des propositions que nous portions dans notre programme L'Avenir en Commun, et c'est des propositions que nous porterons lors du débat de la loi constitutionnelle. Nous l'avions déjà déposé des amendements sur ces questions de cumul dans le cadre de cette loi. Le gouvernement nous a dit, comme d'habitude, pas maintenant, plus tard. Donc nous verrons plus tard si cet engagement du président Macron est tenu et si nous pouvons même aller plus loin sur le non-cumul absolu.
C'est intéressant sur la question du non-cumul, puisque vous l'avez dit, René Dosière, le but c'est évidemment de ne pas être coupé du terrain. Et là aussi, il y a le travail à côté des députés. Est-ce qu'il faut rester avec un travail ou pas ? Ça fait réagir sur France Inter. Et nous avons avec nous ce soir au téléphone Hélène. Bonsoir, bienvenue.
Oui, bonsoir. Je vais peut-être revenir sur des points antérieurs, mais Moi, je suis inquiète en entendant Monsieur René Dosière qui m'évoque qu'il y a une manière de parler des choses très banalisantes. Voilà, c'est pas très grave, on a déjà fait des choses qui sont pas mal, faudra y revenir, mais non, c'est grave. Il y a deux mesures qui restent pour moi très préoccupantes et qui n'ont pas été votées comme prévu, qui sont le fait de ne pas avoir un casier judiciaire et le fait de ne pas pratiquer une activité de conseil. Ces deux éléments n'ont pas été entérinés pour l'exercice des mandats de députés. Et moi, je vois qu'on... Et Mme Aurore, de toute ne me rassure pas. Mme Aurore Berger, excusez-moi.
Je vous en prie.
Mme Aurore Berger, je vous prie de m'excuser. Okay. Ne me rassure pas plus parce que j'entends des paraphrases et comme ça, des circonvolutions qui font que, on n'avance pas du tout. Et moi, j'attendais de M. Macron, qui me semble intelligent, quelque chose de net et de fort qui nous rassure et qui nous redonne envie de voter et de participer à cette vie politique.
Alors Hélène,
j'entends pas ça.
Nous allons répondre évidemment à votre question, mais c'est sur le même thème. Je donne la parole à Pascal et nos invités vont vous répondre à tous les deux. Bonsoir Pascal.
Oui, bonsoir. Je suis bien sûr favorable à cette loi, mais je trouve et je m'inquiète qu'elle s'intéresse toujours à l'individu, en l'occurrence un député, bien sûr, mais qu'elle oublie complètement ce qui dénature et qui met à mal notre démocratie, c'est-à-dire tout le lobby. Et les lobbies n'ont aucune obligation nouvelle de transparence, de publication de leurs études, de publication de la liste exhaustive de leurs contacts avec les ministres ou les cabinets des députés. Donc pourquoi, encore une fois, l'entreprise est-elle absoute de toute contrainte ou transparence ou obligation supplémentaire, et encore une fois l'individu, même si c'est le député, pourquoi c'est encore une fois l'individu qui supporte le poids de la loi ?
Pascal, pour vous répondre, Aurore Berger, députée La République En Marche des Yvelines, sur la question des lobbies justement.
Sur la question des lobbies, déjà il y a quand même une première chose, c'est qu'il y a une loi qui vient d'entrer en vigueur, qui s'appelle la loi Sapin 2, justement qui encadre les activités de lobbying, avec un certain nombre d'éléments qui me paraissent essentiels, notamment le fait que les lobbies sont obligés aujourd'hui de s'enregistrer afin de rencontrer notamment les parlementaires. On peut aller plus loin. Moi-même, avec un certain nombre de parlementaires, on a fait le choix de rendre public nos agendas pour que chacun sache qui on rencontre, notamment quand il s'agit de ce qu'on appelle les représentants d'intérêt, puisque c'est comme ça qu'on les nomme dans le cadre de cette loi. Donc il y a ce qui sera dans la loi. Et encore une fois, elle vient d'entrer en application. Les décrets d'application sont sortis en juillet. Donc je pense qu'il faut aussi voir comment elle peut fonctionner et si elle a besoin d'être améliorée, renforcée, corrigée. Mais donnons-nous au moins le temps, un peu plus que 15 jours, pour l'évaluer. Et après, il y a les comportements individuels. Et je pense qu'on sera nombreux à rendre public nos agendas. Et ce type de comportement...
Ça, c'est pas dans la loi, rendre public.
Oui, mais je pense que ça peut changer beaucoup de choses. De toute façon, il y aura toujours des choses qui passeront par un cadre normatif, législatif. Et il y a ce qui sera de l'ordre des comportements individuels. Et à partir du moment où vous rendez public vos agendas et que vous dites qui vous rencontrez, pourquoi vous les rencontrez, je peux vous dire que ça va changer aussi beaucoup les pratiques.
Ben voilà pour la question de Pascal. Il y a Hélène également qui réagit sur les activités de conseil. Et Fabien Lachaud, député de la France Insoumise, vous étiez à la limite du fou rire en entendant Aurore Berger parler. Pourquoi ?
Ben parce qu'en fait, sur une des mesures, une des propositions du président Macron, c'était d'interdire toute activité de conseil pour un député. La loi ne le prévoit pas. On a déposé des amendements pour aller dans ce sens-là, de multiples amendements. Rien n'a été retenu. Donc voilà, les députés qui, les 70 députés d'En Marche qui exercent une activité de conseil pourront continuer à exercer cette activité de conseil pendant leur mandat. De la même manière, jamais rien dans cette loi n'a été prévu pour lutter contre le pantouflage et les conflits d'intérêts dans la haute fonction publique. Hein, vous savez, ces très grands fonctionnaires qui vont travailler dans le privé et qui reviennent dans le public. Hein, par exemple, on peut donner l'exemple de l'ancien directeur du budget qui connaît tout des entreprises françaises et dans lesquelles l'État a des participations et qui a été embauché par un fonds d'investissement chinois. Et l'argument de dire il y a eu une loi en 2016, on ne peut pas...
On ne va pas même pas 15 jours pour évaluer la loi ?
Attendez.
On fait loi sur loi sur loi. C'est quand même pas ça l'efficacité.
Eh bien, écoutez, pourquoi a-t-on habilité le gouvernement à réformer le Code du travail alors qu'il y avait une loi sur le Code du travail qui n'a pas encore porté ses fruits, la loi El Khomri qui date d'il y a moins d'un an. Il y a des mesures de la loi El Khomri qui rentraient en application au 1er juillet 2017 et vous nous avez demandé d'habiliter le gouvernement à modifier ces mesures par ordonnance alors qu'elles avaient moins de 15 jours.
À modifier ces mesures, à réformer le travail.
Sur le Code du travail, on peut le détruire en 15 jours alors qu'il y avait...
Ce sera l'objet d'une prochaine émission.
Oui, mais il faut quand même le noter.
Alors qu'est-ce qui est prévu dans la loi Sapin 2, monsieur Lachaud?
Donnons la parole aux auditeurs, si vous voulez bien, Aurore Berger. Denis est avec nous. Pardon, Aurore Berger et Fabien Lachaud, un peu de respect. Les auditeurs ont la parole sur France Inter. Et c'est Denis qui est avec nous. Bonsoir, Denis.
Oui, bonsoir. Je vais tout à fait dans le sens du représentant de la France Insoumise. Effectivement, si la loi sur les emplois familiaux est une bonne chose, ça découle directement de l'affaire Fillon. Mais dans l'ensemble, je trouve que les conflits d'intérêts ont été totalement épargnés, tels que effectivement le pantouflage, c'est-à-dire les allers-retours privés-publics. Et il y a aussi un élément qui m'interpelle, le verrou de Bercy, où les fraudeurs fiscaux peuvent négocier et non être finalement punis comme... n'importe quel citoyen. Donc voilà ma question.
Alors deux termes en plus qu'il va falloir expliquer, Denis. On va évidemment répondre à votre question sur le pantouflage et le verrou de Bercy. René Dosière, ancien député socialiste. Le pantouflage, qu'est-ce que
alors,
c'est?
Le pantouflage, c'est cette pratique qui permet à un certain nombre de fonctionnaires, de hauts fonctionnaires,
souvent des collaborateurs de ministres, du président lui-même,
de pouvoir passer dans le privé. Bon, or ça ne fonctionnait pas, et je suis désolé, Monsieur Lachaud, mais on a voté un texte en 2015 qui a complètement modifié la façon dont ce pantouflage doit être régulé. Aujourd'hui, mais la loi est en train de s'appliquer, aujourd'hui, effectivement, il y a une obligation. Ça n'a plus rien à voir avec le système ancien auquel tout le monde passait à travers.
Mais ce n'est pas suffisant pour autant.
Naturellement. Et là, vous faites allusion à des cas qui étaient sur l'ancienne réglementation et pas sur la nouvelle. Donc, il n'y avait pas de raison de revenir sur le pantouflage. S'agissant du verrou de Bercy, qui est une expression qui fait que lorsque la justice doit agir sur le plan pénal pour une infraction fiscale, elle doit auparavant obtenir l'autorisation, je dirais, du ministère des Finances. Et donc, de ce point de vue-là, ce point
ça
n'a pas été...
Ça ne vous choque pas ?
Si c'est choquant, ceci dit, c'est une question qui est complexe parce que les affaires fiscales sont complexes. La justice n'est pas toujours demandeur. D'ailleurs, parce que il y a 50 000 infractions par an, si c'est pour que ces 50 000 infractions soient classées en non-lieu parce que la justice n'a pas les moyens de le traiter, il vaut encore mieux qu'aujourd'hui on récupère un petit peu d'argent et que les gens soient sanctionnés autrement. Il faut aborder ce point, s'il y a une résistance du ministère des Finances, et le texte là n'était pas directement lié à cette question, et il faudra sûrement y revenir.
Voilà, vous avez dû rendre heureuse Louisette qui réagissait sur le verrou de Bercy sur Twitter et qui vous interpellait directement. Bastien Lachaud.
Oui, sur le verrou de Bercy, c'est un archaïsme de notre société
qui donne
le monopole au ministre de l'économie la possibilité de décider en gros ce qu'il adviendra des fraudeurs du fisc. On l'a vu là récemment, Google qui a négocié sur un coin de table un accord avec le gouvernement pour verser
C'est une situation extrêmement différente avec Google.
Non,
ça n'est pas lié au verrou de Bercy.
C'est lié aussi au verrou de Bercy. Et il faut quand même avoir conscience de ce que représente la fraude fiscale dans ce pays. C'est de 60 à 80 milliards par an.
On ne connaît pas le chiffre.
Oui.
Si on le connaissait, ce serait bien. On peut raconter n'importe quel chiffre.
La plupart des estimations sérieuses disent de 60 à 80 milliards, ce qui est plus que le budget de l'éducation nationale annuelle.
Donc, ce chiffre n'est pas fiable.
Écoute, peut-être pour vous, pour moi, je le considère comme fiable. Et à partir de ce moment-là, je me dis que quand il y a un système qui laisse passer plus de 60 milliards d'euros dans les poches de certains, eh bien, il faut le réformer.
Vous laissez passer, donc,
non, on laisse pas passer passer, mais la question c'est de savoir quel est le meilleur moyen pour lutter contre la fraude fiscale. Et c'est ça qu'il faut à un moment, il faut se poser autour d'une table pour y réfléchir. C'est pas en introduisant des amendements et en se faisant plaisir amendement après amendement dans le cadre de l'étude d'un projet de loi qu'on permet de résoudre ce genre de questions qui sont suffisamment sérieuses et qui sont vraisemblablement suffisamment complexes, sinon elles auraient pu préalablement être simplifiées, modernisées ou changées. Je pense qu'il y a aujourd'hui une commission qui va se réunir avec l'ensemble des groupes parlementaires, y compris des membres de l'opposition évidemment. Je pense que ça permettra d'arriver à une position qui permettra de lutter efficacement contre la fraude fiscale.
Voilà, vous êtes tous les trois députés, mais il y a aussi le président de la République qui interpelle. Et il y a Claude pour vous poser une question. Bonsoir Claude, bienvenue.
Bonsoir à tous. Alors moi, j'aimerais bien qu'on commence un petit peu à faire rentrer dans le rang, nous, présidents de la République, parce que là, on est en train de nourrir 4 présidents de la République. Et en plus, je suis très contente que Monsieur Macron s'intéresse un peu au statut de la Dame de France, parce que les Pompadour, les Montespan, les Dubarry, je pense que ça suffit. Et ce serait très, très bien. J'ai une pensée émue pour Madame de Gaulle, qui, elle, a fini ses jours chez les petites sœurs des pauvres.
René Dosière, député, ancien député socialiste, vous répond.
Oui, alors je me suis intéressé beaucoup, d'ailleurs, au statut à la fois du président, enfin, au budget de la présidence de la République et puis aux avantages qui étaient accordés de manière non transparente aux anciens présidents de la République. Alors, François Hollande a d'ailleurs réduit ses avantages. Il les a réduits dans le temps, c'est-à-dire qu'au bout de 5 ans, la moitié de ses avantages, qui représentent un coût chiffré à 3 millions environ, enfin 2 millions environ par an pour chaque président de la République. Voilà. Pour ma part, je suis favorable à ce que la France continue à traiter correctement ses anciens présidents de la République, mais le fasse dans la clarté. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, en fonction des avantages matériels qu'on leur accorde, eh bien, ils ne puissent pas, je dirais, avoir de rémunération privée et qu'ils puissent continuer à rendre des services à notre pays. Et bien entendu, il faut aussi qu'ils ne soient plus, ils ne siègent plus au Conseil constitutionnel, car c'est le moyen que l'on a trouvé d'améliorer leur rémunération. Donc François, je crois qu'il faut traiter ces questions dans la clarté. Ça avance lentement, il faut le reconnaître, mais enfin, ça progresse.
Bastien Lachaud pour la France Insoumise, qu'est-ce qu'on fait de nos anciens présidents de la République?
Déjà, nous, on avait proposé un amendement pour supprimer l'ensemble de ces avantages, excepté les questions de sécurité. L'amendement n'a pas été intégré dans cette loi. Ça aurait pourtant contribué à clarifier les choses. Eh bien, ce qu'on fait de nos anciens présidents de la République, on essaye déjà d'élire une assemblée constituante pour passer à une 6e République et on supprime la fonction présidentielle. Ça simplifiera beaucoup de choses.
Mais même avec une 6e République, ils resteront anciens présidents.
Oui, mais c'est pour ça que nous, je vous ai dit, on a déposé un amendement, vous avez voté contre.
Et
vous avez
voté
le maintien des avantages des anciens présidents, mais vous avez voté contre notre amendement.
Il y a eu une petite polémique là pendant l'été sur le statut de la première dame, Madame Brigitte Macron, et notamment certains députés qui disaient nous, on ne peut plus employer nos femmes comme assistantes parlementaires, mais Monsieur Macron travaille avec sa femme. C'est sérieux ou c'est pas sérieux?
Elle n'est pas membre du cabinet du président de la République et il vous aura pas échappé que Emmanuel Macron l'avait annoncé justement pendant la campagne en disant qu'il fallait justement mettre fin à l'hypocrisie qui faisait qu'il y avait des moyens qui étaient alloués. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il y a des centaines de courriers qui arrivent tous les jours et que je ne doute que Brigitte Macron seule puisse répondre à des centaines de courriers par jour. Ça me paraît pas aberrant en effet qu'elle puisse enfin avoir un statut et que ce soit clair plutôt que d'enchaîner comme ça les noms. On a aujourd'hui, René Dosière y a beaucoup contribué, un budget qui est enfin rendu public et transparent pour la présidence de la
République. Elle coûte cher, la première dame de France, René Dosière ?
Oh non, enfin la précédente, si vous voulez, ça dépend du nombre de collaborateurs que la présidence de la République met à sa disposition, parce que tout ça fait partie du budget de la présidence de la République et par conséquent est transparent et contrôlé par la Cour des comptes. Sinon, on aurait pu évoquer, s'agissant des emplois familiaux, plutôt le statut de Claude Chirac, qui était la fille rémunérée du président de la République et qui a été d'une très grande efficacité. Ce qui montre d'ailleurs que la notion d'emploi familial mérite d'être réexaminée un peu sérieusement. C'est l'efficacité qui compte et je comprends beaucoup la réaction de Mme Favennec parce que de ce point de vue-là, on a vu d'ailleurs dans les débats que les choses ne sont pas aussi simples que cela et peut-être d'ailleurs là aussi le Conseil constitutionnel aura son mot à dire sur cette discrimination concernant les parlementaires, les collaborateurs de ministres et les élus locaux.
Voilà, j'espère, Claude, qui nous écoutait ce soir, nous avons répondu à votre question. Merci pour tous vos messages, bien évidemment. Alors, j'ai une information à vous donner. Il n'y a pas d'affaires sensibles ce soir, mais restez tout de même avec nous pour écouter Jeanne Moreau dans une rediffusion de Radioscopie, l'émission de Jacques Chancel. Mais avant cela, vous l'entendez, il est 20h sur France Inter.